のままエコノミック。
Bonjour messieurs, dames, je vous souhaite à vous tous une excellente journée et bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur votre radio. En voici les grandes articulations. Le prix du ciment gris toujours en hausse, c'était encore invité cette semaine dans l'actualité, un mois après l'annonce par le ministre de l'économie du prix concerté de 12,5 $ américains. Le sac, ce prix décidé de commun accord avec les opérateurs du secteur, souffre encore dans son application. La session des directeurs des impôts de la DGI se clôture aujourd'hui à Kinshasa. Cette session était consacrée à l'évaluation des assignations en fin premier semestre 2016 sur 960 milliards de francs congolais attendus pour cette période. L'administration fiscale a mobilisé 926 milliards de francs congolais. Ce sont des réalisations en baisse de 24% par rapport à la même période de 2015. Les justifications de la DGI dans ce magazine. Nous allons enfin ensemble découvrir la Chambre de commerce de l'industrie et des métiers de la RDC. Son coordonnateur Alain Fournier est notre invité. Voilà pour le titre, messieurs, dames. Excellente condition d'écoute. Je suis Daniel Tambezoni devant ce micro et à la technique, Héritier Sidekala.
Panorama économique, le dossier.
Encore une fois, bonjour et bienvenue à la rétrospective qui commence par cette mesure de suspension pour 3 mois des importations de ciment gris par le gouvernement de la RDC. Cette décision qui a provoqué la flambée du prix de ce produit stratégique sur le marché, malgré l'annonce le 14 juillet par le ministre de l'économie, Modeste Bahati, du prix concerté avec les opérateurs du secteur. 12,5 $ américains, c'est le prix concerté qui devait être appliqué sur le marché, selon la déclaration du 19 juillet faite par le ministre Modeste Bahati.
Comme vous le savez, par anticipation, beaucoup de commerçants ont commencé à hausser le prix inutilement sans respecter la procédure et sans tenir compte de la loi de l'offre et de la demande, parce que ce que je dois vous dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un grand stock de ciment, un grand stock de sucre, un grand stock de barres de fer à béton. Il n'y a pas de raison pour que les gens puissent commencer à faire de l'anticipation et de la spéculation. C'est pour cette raison qu'après avoir examiné tous les contours ainsi que les éléments qui composent le prix de revient de chaque produit, nous avons décidé aujourd'hui de fixer le prix concerté qui doit être le prix de 9 $ pour le sac de ciment ex-usine Lukala. Quand on y ajoute les frais de transport, au détail à Kinshasa, le sac de ciment devrait se vendre à l'équivalent de 12,50 $. Nous avons lancé un communiqué par le secrétariat général à l'économie pour mettre en garde tous les spéculateurs et nous allons prendre toutes les dispositions à travers la brigade économique pour sanctionner sévèrement tous ceux qui se permettent d'augmenter les prix de manière exagérée. Donc personne ne devrait vendre le ciment au-delà de l'équivalent de 12,50 $.
Personne ne doit vendre le sac de ciment de 50 kg à un prix supérieur à 12,5 $américains. Le ministre avait cherché la brigade économique de faire appliquer cette mesure, mais malheureusement sur le terrain, la réalité est tout autre. Le sac de 50 kg de ciment se vend aujourd'hui à presque 18 000 francs congolais. Les détaillants disent acheter à 14 voire 14 500 francs congolais auprès des grossistes de la Silou. Ils vont revendre à ce prix 17 000, 7 500. 18 000, tenant compte des dépenses connexes. Les consommateurs du ciment, eux, se plaignent. Les chantiers sont en arrêt. C'est le cas de ce monsieur qui a requis l'anonymat. Il habite le quartier Kinkole.
Et presque tout mon ministre à l'obby qui a gagné ma frontière, si même a dit 16 000. Au moment où je vous parle de ciment, c'est quoi comme il a 17 500. Aussi longtemps décision on a essayé longue et puis bah si mes accords si les lois si mes autres qui t'attendent toi éviter ceux qui bah concernant comment tu l'as mis sur les camos pour si mes matières ma casse donc toi bien entendu à quoi ça l'attire mais monsieur moi ça la médaille monsieur les autres combattants tu sais qu'un ministre basi aille bah vraiment côté la mis sur les camos parce que leur côté de pouvoir ne va pas la moment où vraiment balbutie un chantier si quoi Denge sime mati na decision wana. Ba eta kika ko mati sa sima, me po na ko kiti sa. Ba dana mezi se ya ko dwa sima, ba kiti sa nga zonga. E zo kontine ka ko mati sile, lo papa.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Si les consommateurs de ciment gris ont déploré l'interdiction des importations par le ministre, la cimenterie de Lucala, elle, s'en réjouit. Écoutons plutôt le directeur général de la CILU qui a accepté de répondre à nos questions.
La CILU, suite à la décision du gouvernement de stopper les importations de ciment à travers les frontières de Lufu et Angouango, elle a repris son rythme de production. Elle a également fait arrêter les mesures de chômage technique qui ont touché une partie de notre effectif. Et nous sommes en train maintenant de préparer le démarrage aussi de notre four, ce qui fait que à partir du mois prochain, la CILU travaille comme elle l'a fait avant début mai 2016. Le marché a bien sûr connu certaines perturbations puisque l'arrêt des importations a été efficace du jour au lendemain. Mais ce que nous voyons depuis les deux dernières semaines, c'est que maintenant les autorités ouvrent, mais de manière contrôlée, certaines importations pour équilibrer le déficit qu'il y aurait dans le marché avec seule la CILU. Il faut une combinaison de importation et de production locale pour que le marché soit convenablement alimenté en ciment. Et c'est ce que nous espérons et en train de se manifester ici, qu'on est à nouveau dans une situation où il y aura plus d'ordre et de prévisibilité du marché du ciment.
Depuis cette décision, monsieur le directeur général, même le prix du ciment CILU est passé. Aujourd'hui, nous sommes à 17 000, voire 17 500 francs le sac, alors que le prix concerté annoncé par le ministre de l'économie le 19 juillet, c'était que le dernier détaillant de ciment CILU le livre à 12,5 dollars. Mais ça n'a jamais été respecté.
Ceci est correct et nous observons malheureusement la même chose. Mais je dois rappeler une chose, que le lendemain de l'annonce de l'arrêt des importations, le 9-10 juillet, on avait déjà vu cette flambée de prix. Et pourtant, il y avait beaucoup de ciment dans les marchés. Je pense que la plupart des magasins ici à Kinshasa étaient en ce moment plein. Néanmoins, on a vu cette flambée de prix, et ça, je ne peux dire qu'il y a uniquement un souhait de faire la spéculation qui peut bien expliquer qu'il y a cette flambée de prix. La CILU, quant à elle, elle respecte pleinement ce que le ministre de l'économie nationale avait annoncé au cours de juillet, qu'il y aurait donc un cap maximal de prix de vente en détail de sac de ciment de 12,5 dollars ou 13 500 francs congolais le sac. La CILU respecte ça de la manière où notre prix actuel, ex-usine de Lucala, est en dessous de 10 000 francs congolais le sac, ce qui devrait permettre de respecter cette consigne du ministre de l'économie nationale. Mais ceci n'est pas le cas, et j'espère à ce que, pour remettre aussi de l'ordre dans ce côté du marché cimentier, il y a encore du travail à faire pour faire respecter cette consigne du ministre.
La situation de flambée de prix du ciment sur le marché, encore une fois, n'est pas de la responsabilité de la CILU, mais plutôt des opérateurs économiques qui profitent de la situation pour faire de la spéculation.
Ça semble malheureusement, oui, être le cas aujourd'hui. Mais j'espère à ce que nous arriverons à dialoguer avec les autorités pour trouver un bon équilibre pour que le marché soit aussi beaucoup plus ordonné sur le côté détail que ce qu'il est aujourd'hui.
Monsieur le directeur général, merci.
Merci aussi.
Au autre sujet de la semaine, la Direction générale des impôts a mobilisé en fin juillet 2016 926 milliards de francs congolais sur les prévisions de 960 milliards de francs congolais. C'est le directeur général des impôts qui l'a dit jeudi à l'occasion de l'ouverture à Kinshasa de la session des directeurs centraux provinciaux des impôts. Cette session qui se clôture aujourd'hui samedi avait pour mission d'évaluer les résolutions du séminaire de février 2016 et de déterminer les stratégies en vue de réaliser les assignations pour le reste de mois de l'année 2016. Nadine Foula a assisté à l'ouverture de ses travaux et voici son reportage.
La Direction générale des impôts a coutume d'organiser chaque année deux importantes rencontres des directeurs centraux et provinciaux, à savoir un séminaire en début d'année pour arrêter des stratégies et une session à mi-parcours. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette session. En fin juillet 2016, la DGI a mobilisé 926 milliards de francs congolais contre le prévision évaluée à 960 milliards de francs congolais. Au cours de cette session, les participants vont procéder à un diagnostic pour identifier les forces et faiblesses. Dieudonné Lokadi, DG de la DGI.
Par rapport à la même période de l'exercice budgétaire 2015, où la DGI avait réalisé des recettes de l'ordre de 1217 milliards de francs congolais, il se dégage un écart négatif de 291 milliards de francs congolais, soit une régression de 24%, justifié principalement par le ralentissement de l'activité économique et a occasionné notamment la baisse de la masse salariale taxable aux impôts professionnels et exceptionnels sur les rémunérations. Pour ce faire, la DGI se doit, en dépit des perspectives peu réduisantes qui se dessinent d'ici la fin de l'année, de relever ces grands défis.
Face à cette situation, le vice-ministre des Finances, Albert Mpeti, préconise quelques pistes de solutions. On l'écoute.
Un tel défi ne saurait être relevé sans la recherche de plus d'efficacité dans les actions de votre administration. C'est ainsi que j'insiste particulièrement sur le point ci-après, qui devront connaître des évolutions significatives. Il s'agit de l'efficacité dans la lutte contre la fraude fiscale, l'intensification de la sensibilisation des contribuables au civisme fiscal, le recouvrement efficient du solde débiteur, l'élargissement permanent de l'assiette fiscale.
Panorama économique. Chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, le développement des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Autre actualité de la semaine en plus bref, Ituri pour commencer, la production du cacao a augmenté dans le territoire de Mambasa. Elle est passée de 1000 tonnes en 2014 à 2000 tonnes en 2015. Ces chiffres ont été livrés mercredi à Radio Capi par l'inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage de ce territoire situé à 175 km au sud-ouest de Bounia. Modeste Kieté justifie cette augmentation par la multiplication des champs de cacao et par le fait que le prix au kilo du cacao sur le marché est supérieur à d'autres produits agricoles. La Fédération des entreprises du Congo, antenne de Dilolo dans la province de Lualaba, a salué l'arrivée de la première locomotive de la SNCC à Dilolo, cela après plus d'une année d'absence totale. Le président de la FEC Dilolo, qui l'a dit, a par ailleurs précisé que la SNCC a laissé dans la gare de Dilolo deux wagons au bénéfice des opérateurs économiques locaux. Une fois ces wagons remplis de marchandises, ils seront tractés par une locomotive à destination de Kolwezi et de Lubumbashi. Lukwenko Miji espère que le trafic ferroviaire sera régulier sur cet axe. Autre chose, la Direction générale des douanes et accises a dénoncé cette semaine la fraude douanière à grande échelle au poste frontalier de Mahagi, c'est à 175 km au nord de Bounia. Le directeur général de la DGDA a accusé pour cela l'entreprise Ingeniera et Innovationnée basée en Ituri. Celle-ci fait entrer de force de camions citernes de carburant importés de l'étranger sans payer aucun frais de douane. La DGDA a déclaré que cette pratique, qui dure déjà 7 mois, lui a fait perdre plus de 21 millions de dollars américains. L'entreprise incriminée a renié tous les faits mis à sa charge. C'est un dossier de Sadiki Aboubakar.
Selon Daniel Ouma, député national du Mahagi, cette histoire a commencé lorsque 10 véhicules qui appartiendraient à l'entreprise IEI étaient détournés par des hommes armés au pont Lokorto ici à Bunia, pendant qu'ils étaient escortés par des agents des douanes en provenance du Mahagi afin qu'ils viennent régulariser leur litige à la sous-direction de la DGDA Bunia. C'est ce qui aurait poussé le directeur général de la DGDA à prendre une mesure de rétention de tous les véhicules appartenant à IEI au poste douanier du Mahagi. Soudain, des hommes armés qu'aucun service ne veut nommer ont arraché de force le dimanche une trentaine de camions citernes qui étaient sous douane. À cela s'ajoutent 9 autres camions chargés de carburant arrachés dans les mêmes conditions mardi dernier, ce qui a créé un scandale à Mahagi. Daniel Foua Ouma, député national élu du Mahagi, qui a assisté à ces hold-up, s'est dit choqué.
Quand c'était par notre grand circuit, le dimanche, il y a eu des éléments non connus qui sont venus jusqu'à Mahagi. Ils ont pris les camions là de force, c'était une trentaine, moi-même je les ai vus. Ils ont cassé toutes les barrières qui existaient. Il y a la première barrière à la douane, il y a la barrière de la DGPI, et puis il y a une autre barrière de Fonaire. Donc toutes ces barrières ont été cassées, et ces camions sont passés. Donc c'était scandaleux. Les éléments de la police qui ont été commis à la garde de ces camions ont été chassés, ils sont disparus. Alors jusqu'à présent, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous demandons à ce que les plus hautes autorités du pays puissent prendre ça à bras le corps parce qu'il y a un manque à gagner énorme pour la République et pour la province.
Le directeur général de la DGDA confirme cette situation. Tout en affichant sa colère vis-à-vis de cela, Deoro Guiza indique que toutes les autorités gouvernementales sont déjà saisies.
Je suis informé de ça parce que nous avons un directeur provincial qui est sur place et nous avons saisi l'autorité gouvernementale. Et c'est depuis longtemps que nous déplorons et que nous dénonçons le comportement de cette entreprise qui veut faire passer ses produits sans les déclarer, sans rien payer. En ce qui concerne la douane, nous avions justement pris la décision de ne pas les laisser passer. Il fallait qu'elles déclarent comme tout le monde. Et au cas où ils avaient une exonération, ils n'avaient qu'à l'exhiber, à la présenter. Ils n'en ont pas du tout. Au cas où ils attendraient une exonération probable, il y a des procédures à suivre.
Un des responsables de la DGDA en Ituri a expliqué à Radio Okapi le manque à gagner dans cette fraude en ces termes.
D'une façon estimative, c'est 250 camions citernes par mois et un camion citerne paye au moins 12 millions de francs congolais. Donc si vous prenez 250, vous multipliez par 12 millions, vous avez le manque à gagner par mois. Et le manque à gagner par mois va vous amener à avoir la sommation de 7 mois.
Plusieurs services de l'État se disent aussi victimes de cette situation. C'est le cas du Fonds national d'entretien routier Foner qui dit avoir enregistré une baisse de 40% de ses recettes depuis décembre dernier. Ce qui, selon son directeur provincial, ne lui permet pas de répondre ponctuellement aux différents problèmes des infrastructures routières dans la province. De son côté, le transport et voies des communications Transcom dénonce la même situation qui impacte négativement dans ses recettes. Contacté, le responsable de IEI rejette en bloc toutes ces accusations. Ils affirment qu'ils n'importent pas des carburant et qu'ils ne sont donc pas impliqués dans cette affaire. Ils appellent la DGDA à s'appuyer sur la justice pour arrêter toute personne qu'elle juge impliquée dans cette affaire. Bounia, Sadiq Aboubakar, Radio Okapi.
Et comme promis, nous accordons à présent la parole au coordonnateur de la Chambre de commerce, de l'industrie et des métiers de la RDC qui est avec nous dans ce studio. Monsieur Alain Fournier, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au studio de Radio Okapi et dans cette émission. Vous êtes le coordonnateur de la Chambre de commerce, de l'industrie et des métiers en RDC. Voulez-vous nous parler brièvement de cette Chambre de commerce et combien de temps elle existe déjà?
Cette chambre a été créée il y a presque 4 ans maintenant. Le président est Éric Makela, qui a lui-même initié cette aventure en partant d'une vision où il fallait doter ce pays d'une véritable chambre du commerce qui soit l'interlocuteur international des opérateurs économiques, notamment, pour développer tout l'ensemble de la RDC en termes économiques et en termes sociaux, dans la mesure où cette chambre a côté développement durable.
Voilà, il n'y a pas que cette chambre de commerce en RDC. En passant, je signale qu'il y a plusieurs chambres de commerce de l'industrie en RDC. Mais quelle serait la particularité de la chambre de commerce dont vous êtes coordonnateur? Ce qui m'attire ici, chambre de commerce de l'industrie et de métiers. Qui en est membre effectivement?
Alors, la véritable facteur différenciant de cette chambre. Je crois que nous sommes une des rares chambres à avoir une stratégie qui soit formalisée, qui soit avec le plan d'action correspondant pour se développer et développer la RDC.
C'est quoi cette stratégie?
La stratégie, je crois que nous avons une stratégie qui est axée sur la mise en place du développement durable au niveau de la RDC. Et nous avons proposé aux autorités de créer un institut du développement durable, ce qui éviterait à terme de faire appel à beaucoup d'opérateurs internationaux dans la RSE, notamment responsabilité sociétale des entreprises, pour venir ici faire un copier-coller de ce qui se fait en Occident, qui ne peut pas marcher dans ce pays. On doit aborder la RSE d'une façon complètement différente.
Et selon vous, ce serait comment cette façon d'aborder la RSE en RDC?
Écoutez, c'est très simple. La RSE a été conçue pour des Occidentaux, par des Occidentaux, avec une rigueur, une façon de faire. Ici, vous êtes dans un phénomène culturel, vous êtes dans un pays que je qualifierais en émergence. On doit tenir compte de ces spécificités. Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer, comme dans tous les programmes, à aller consulter les parties prenantes, à faire un certain nombre de choses sans avoir fait l'analyse réelle de la société. Et c'est ce que je propose. Je propose généralement de commencer, bien entendu avec l'implication de la direction, par faire ce qu'on appelle un bilan carbone, ce qui va donner une vision globale de la société, on va dire de l'achat des matières premières jusqu'à la quantité de déchets en gérant les coûts. Ça nous permet de faire un premier plan d'action direct, concret, avec le personnel, pour ensuite implémenter quelque chose qui est un peu plus social.
Qui est membre de votre chambre de commerce?
On va dire aujourd'hui, les principaux membres sont surtout des PME et des PME locales, parce que PME au sens européen veut dire quelque chose d'autre. En revanche, il y a beaucoup d'artisans. Parce que nous avons beaucoup travaillé avec les artisans pour revoir complètement leur supply chain.
Et parmi vos projets économiques, il y a ce que vous appelez Congo Cap 1000, ça veut dire quoi?
Alors le projet Congo Cap 1000 est un projet où nous avons initié, que la Chambre elle-même a initié pour essayer de valoriser les gens qui ont des idées, de valoriser les projets en créant 1000 entreprises. Cette idée est partie du projet et nous allons suivre l'idée jusqu'à la réalisation finale. C'est le rôle de la Chambre qui s'implique dans ce projet, avec toute une méthodologie que nous avons initiée, qui est, elle n'est pas novatrice, mais elle est adaptée aussi à la façon de faire de ce pays.
Et depuis que vous l'avez annoncé, s'il y a des gens qui s'intéressent?
Nous avons aujourd'hui entre 40 et 50 projets formalisés, clairs. Nous avons eu 150 demandes, quelque chose comme ça. Donc sur ces demandes, nous sommes obligés de relancer en disant « formaliser l'idée ». C'est-à-dire que les gens vous appellent au téléphone en disant « je voudrais faire ça, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça ». Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce soit écrit et que nous recevions un mail pour que nous puissions travailler de manière pragmatique. Donc aujourd'hui, on a 40-50 projets intéressants.
Intéressants, et la Chambre va servir d'intermédiaire quant à la recherche de financement.
Tout à fait. Le principe, c'est de réaliser un business plan bancable à partir de l'idée, par de la formation adaptée à ça, c'est-à-dire que ce n'est pas une formation traditionnelle, c'est une formation où chacun va faire son propre business plan. Ce business plan bancable va être proposé à des investisseurs locaux, internationaux, ou à des partenariats, pour essayer effectivement de développer complètement ce projet. La Chambre pourrait éventuellement faire du coaching, on pourrait aller jusqu'au coaching, mais ce coaching étant payant, ça risque d'hypothéquer un petit peu. Et de l'autre côté, on a proposé au pouvoir public de créer un statut spécial, alors je ne sais pas le temps que ça peut prendre, ni même si ça verra le jour, le principe étant de créer quelque chose pour les nouveaux entrepreneurs, en France ça s'appelle auto-entrepreneur, avec un maximum de chiffre d'affaires, mais un seul impôt unique.
Alors, en 3 ans d'existence, quelles sont les grandes réalisations de la Chambre de commerce de l'industrie et des métiers de la RDC dont vous êtes coordonnateur?
Écoutez, je ne vais pas tout faire parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup.
Les grandes.
Je vais essayer simplement de résumer 3 choses. La première, c'est ce qu'on a déjà fait de manière effective. On a fait le premier forum du développement durable à Kinshasa avec ce qu'on appelle des ateliers collaboratifs. C'était une nouveauté dans ce pays, dont le thème était l'agriculture responsable. Nous avons eu 47 propositions concrètes et intéressantes qui ont été transmises au pouvoir politique, parce que la Chambre n'a pour rôle de faire des propositions et pas forcément de faire par elle-même. Ça, c'est vraiment le gros forum. 150 personnes étaient présentes. En termes de... Nous avons fait venir ici des opérateurs économiques espagnols. Nous avons organisé un forum à Paris, ce qu'on appelle Planète PME, en juin de l'année dernière. Et depuis ça, nous sommes en cours de différents autres projets. Nous avons structuré toute une démarche pour les artisans du bois. Cette action est toujours en cours dans la mesure où on part de l'achat du bois, construction d'une scierie, enfin toute leur supply chain est en cours avec la formation, la normalisation. De ça est issu un salon international de l'art africain qui est en gestation, parce que bon, il faut trouver des partenaires et des gens qui veulent investir et s'investir dans cette organisation. La Chambre ne doit pas et ne peut pas faire ça elle-même, c'est pas son rôle. Il faut que les artisans soient partie prenante. Nous avons également en cours de créer, je l'ai dit, un institut du développement durable. Donc ça, il faut aussi que l'État se mobilise, non pas pour nous aider, mais qu'il soit moteur. Et nous avons en gestation de créer ce qu'on appelait une hexapole, qui est un comment faire de l'agriculture responsable au Congo. Donc on l'a décliné en différents axes. On nous a affecté des terres à la Chambre, et donc on est en train de regarder comment on va faire avec les Polonais pour faire une vraie agriculture responsable, politiquement correcte.
Et puisque vous parlez des Polonais qui vont vous aider dans ce projet, nous apprenons aussi que votre Chambre entrevoit d'organiser un autre forum au mois de septembre. Ce sera en Pologne, effectivement.
Tout à fait. Nous organisons un forum en Pologne avec les principaux thèmes, l'agriculture, l'énergie, ce qu'on appelle l'import-export, c'est-à-dire vente de denrées comme le café, le cacao en exportation à partir d'ici, certains fruits peut-être, et l'importation c'est plutôt dans la partie électronique, informatique, puisque le Congo ne dispose pas de ces outils aujourd'hui. Il y a également dans les principaux thèmes la partie pharmaceutique. Et là, on a un gros programme en cours dont je ne parlerai pas encore pour essayer de travailler sur de la pharmacopée locale.
La Chambre de commerce existe au Congo, mais vous organisez le forum en Pologne. Comment les artisans congolais qui sont membres de la Chambre de commerce vont bénéficier de ces forums?
Deux axes. Le premier, ils peuvent se déplacer s'ils en ont les moyens, parce que la Chambre ne peut pas prendre ça en charge. Le coût est quand même un petit peu élevé, ne serait-ce que les visas, les billets d'avion, l'hébergement, ça a un certain coût. En revanche, les vrais projets ou les recherches de partenaires seront écrites sous forme de projets spécifiques qui seront transmises à notre partenariat, puisque la Chambre que je représente a un partenariat avec la Chambre locale de Pologne, qui eux après iront chercher les différentes sociétés intéressées par ce type de projet, et nous organiserons, on va dire, si je puis dire, le match retour à Kinshasa d'ici quelques mois.
Monsieur Alain Fournier, à moins que vous ayez un mot de la fin, sinon je pense que c'est l'essentiel est dit.
Je crois que l'essentiel est dit.
Merci de votre passage au studio de Radio Capi. Merci.
Merci beaucoup.
Tout le plaisir était pour moi de vous savoir aussi nombreux à l'écoute de ce magazine Panorama Économique. Je suis Daniel Tambenzoni. J'ai bénéficié du concours technique de Héritier Sidiakala qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Retrouvez tout de suite Panorama Économique sur www.radioocapi.net. Un clin d'œil à vous, auditeurs de Mobile Mbongo, c'est dans le Nord Ubangi. Très bonne fin de semaine et très bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.